رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ العلامة ابن عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في منظومته في السير إلى الله والدار الآخرة: صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن، عبدوا الإله على اعتقاد حضوره، فتبرأوا في منزل الإحسان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا في سيرنا مع هذه المنظومة المباركة في السير إلى الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، وانتقلنا من تلك المنازل: الصبر والرضا والشكر، إلى منزلة أخرى يذكرها الناظم عليه رحمة الله بقوله: صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن. وفي هذا بيان أن هذه المنزلة العظيمة من منازل السائرين إلى الله تبارك وتعالى، والتي حقيقتها أن يظهر العبد عجزه لله تبارك وتعالى واعتماده عليه هذا الاعتماد الذي يكون في جميع أموره وكل شؤونه، لأن التوكل مبناه على إيمان واعتقاد. التوكل عبادة من العبادات القلبية، وهو من توحيد العبادة لله عز وجل، من أنواع توحيد الألوهية. ومعلوم لدينا أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، أو بمعنى آخر أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، بمعنى أن الذي علم واعتقد وأيقن اليقين الجازم أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محي ولا مميت ولا ضار ولا نافع إلا الله تبارك وتعالى، كيف يتوكل؟ كيف يعتمد على غيره؟ لا رازق إلا هو. والتوكل يكون في باب الرازقية ويكون في غيره من الأمور كلها، في طلبه للعلم، وهذا باب من أبواب العبادات، وهو قرب من أجل القربات. الطالب يتوكل على الله عز وجل، طالب الرزق طالب، في طلبه للرزق يتوكل على ربه بمعنى أنه يعتمد عليه، لا يعتمد على تلك الأسباب التي هو مأمور
بالأخذ بها. وهذا الفرق بين أصحاب العقيدة الحقة وبين أصحاب العقائد الباطلة. أصحاب العقيدة الحقة يتوكلون على الله جل وعلا، بل إن التوكل على الله عز وجل مصاحب لهم في كل الأمور، في كل الأمور. وهذا لا يمنعهم من بذل الجهد، هذا الجهد قال في رضا الرحمن، والمقصود به الإشارة إلى اتخاذ الأسباب. واتخاذ الأسباب شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الذي يزعم أنه يتوكل على الله وهو منقطع عن الأسباب بزعمه، هذا ليس على شريعة نبي، ليس على شريعة نبي. وادعى أقوام أنهم متوكلون على الحقيقة وأنهم أقوى المتوكلين، ودليل قوتهم في توكلهم أنهم لا يأخذون بشيء من الأسباب. تعلمون أن بعض الطوائف البدعية المخالفة لعقيدة أهل السنة في هذا الباب، بعض الطوائف من غلاة الصوفية يعتقدون أن أخذ سبب من أسباب الرزق أو غيره يقدح في إيمان صاحبه أو في توكل صاحبه. إذا رأوا عند أحدهم مثلاً آلة من آلات الحرف أو آلة من آلات الصناعة قالوا أسطر علينا عورتك. إذا رأوا قلما أو آثار حبر على طالب علم اتهموه في إيمانه وقالوا أسطر علينا عورتك، لأن حقيقة المتوكل بباطل عقيدتهم أنه يؤتى العلم من غير سببه، من غير سببه. واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. بعض الناس يقولوا، وهذا موجودين عندكم، العلم علمان، علم مسائل وعلم فضائل، ونحن إنما نجتهد في علم الفضائل، ويجتهدون في علم الفضائل من غير تنقيح ولا تحقيق ومن غير سير على طريقة العلماء المحققين، فيأتون في هذا الباب بالغث والسمين ويجيبوا ويستدلون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة. اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحدي، اطلبوا العلم ولو في الصين، وقس على ذلك من هذه الأحاديث التي لا تصح نسبتها إلى رسول الله. ثم يقولون أما علم المسائل فنتركه للعلماء، يعني لا نتعلمه، نتركه للعلماء، كأنه لا يهمنا، ويزهدون الناس في هذا العلم الذي هو أصل العلم والذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. منطوق الحديث أن الذي أراد الله له وبه الخير يفتح له في هذا الباب، يفتح له في هذا الباب فيرزق الفقه في الدين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي هو لما رأى تلك النباهة وذلك الذكاء على الغلام الهاشمي على ابن عمه عبد الله بن عباس دعا له بدعوة مباركة فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فأصبح أفقه الصحابة ولا يعرف إلا بحضر هذه الأمة وترجمان القرآن. عبد الله بن عباس على صغر سنه بين أصحاب رسول الله، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والعلم كالرزق، والعلم كالرزق. الله جل وعلا فضل بين الناس في رزقه، فمنهم غني وفقير، فضل بين الناس في علمه وفقهه، فمنهم عالم ومنهم طالب ومنهم مبتدئ ومنهم جاهل، جاهل جهل بسيط هذا يسعى ليتعلم، وجاهل جهل مركب هذا يظن نفسه عالما، مثل صاحب اللي حكيت لكم عنه البارح، صاحب الجهل المركب يظن نفسه عالما. فمن أراد الله جل وعلا به خيرا وفقه في هذا، والتوفيق في هذا مفهوم الحديث أن الذي ما أراد الله به خيرا لا يوفق لهذا الخير، لا يوفق لهذا الخير. ولهذا ترون عناية سلف الأمة بالعلم النافع واجتهادهم فيه وحرصهم عليه لأنفسهم ولأبنائهم. بعض الناس يظن أنه جاوز سن الطلب، يقول خلاص أنا كبرت لم يبقى لي شيء. ومن العلماء أصبحوا أئمة وما بدأوا الطلب إلا بعد أن وصلوا سن الكهول، ويضربون بهذا مثل ابن حزم الظاهري عليه رحمة الله، بدأ الطلب سنه 40 سنة، يضربون مثل بأبي حنيفة حتى أصبح إمام من الأئمة المتبوعين، بدأ الطلب بعد مرحلة من عمره. وهكذا هذا خير، هذا خير عظيم، وهذا الخير يسير فيه صاحبه وطالبه في أسبابه، ومن ظن أنه من غير أسباب فقد أخطأ وضل ضلالا مبين، كما جاء في الأثر المروي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: إنما العلم بالتعلم.
L'imam Sa'di, rahimahullahu ta'ala, a dit « Ils ont fait accompagner la confiance en Allah à l'ensemble de leurs affaires, tout en s'efforçant d'œuvrer afin d'acquérir la satisfaction du miséricordieux. » Ici, l'imam Sa'di, rahimahullahu ta'ala, nous parle de la confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, et appuie sur le fait qu'il faut œuvrer, c'est-à-dire qu'il faut faire les causes. C'est donc un autre degré des degrés franchis ou atteints par ces gens cités par l'imam Sa'di dans son poème, qui est celui de ce qu'on appelle en arabe « al-tawakkul », qui est le fait de placer sa confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la réalité de la confiance en Allah, qui est appelée « al-tawakkul », c'est le fait que le serviteur montre son incapacité à Allah, subhanahu wa ta'ala, et s'appuie sur son Créateur dans tout ce qu'il entreprend. Et nous disons dans tout ce qu'il entreprend, Car en réalité, at-tawakkul, placer sa confiance en Allah, est le résultat de la foi que l'on a en Allah et de la conviction que l'on a en lui, subhanahu wa ta'ala. Ceci fait partie de la branche du monothéisme, at-tawhid, appelé tawhidul uluhiyya, l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans la divinité ou alors dans l'adoration. Celle qui comprend l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie. Ou encore, on peut dire, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie implique forcément de l'unifier dans l'adoration, dans le culte subhanahu wa ta'ala. Celui qui est convaincu, qui a su et qui croit qu'il n'y a nul autre créateur qu'Allah, ni pourvoyeur, subhanahu wa ta'ala, comment peut-il s'appuyer sur autre qu'Allah? Comment peut-il s'en remettre à un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala? De placer sa confiance en Allah dans tous les domaines de la vie, tant bien dans le domaine de la recherche de la subsistance que d'autres, tels que la recherche de la connaissance religieuse. Celui qui recherche la connaissance religieuse, et ceci fait partie des actes les plus aimés chez Allah, subhanahu wa ta'ala, doit également placer sa confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Il doit placer sa confiance en Allah dans la recherche de la connaissance et être convaincu que c'est Allah, azza wa jal, qui lui accordera son aide et la réussite. De même, celui qui recherche la subsistance doit s'en remettre à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne doit pas délaisser les causes. Il doit faire les causes pour acquérir cette subsistance qu'il a justement recherchée. Car ceci est la différence entre les gens à la conviction vraie et ceux à la conviction fausse. Les gens du vrai placent leur confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, s'en remettent à lui et œuvrent. Ils font les causes pour atteindre leur but et leur objectif. Alors que les gens du faux se sont égarés dans ce domaine, certains délaissent le fait de faire les causes et pensent que ceci entache la foi. Et certes, cela est un égarement. Les gens de la vérité accompagnent dans toutes leurs affaires at-tawakkul, la confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils font les causes, car ceci fait partie de la législation de la sunna, d'œuvrer à la recherche de ce que l'on veut atteindre. Il faut faire les causes et placer la confiance en Allah. Celui qui veut atteindre un but, qui veut acquérir une quelconque chose, sans pour autant œuvrer et faire les causes, n'est pas sur la législation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il existe des gens qui prétendent que at-tawakkul, la confiance, se place en Allah subhanahu wa ta'ala en délaissant les causes, comme les exagérateurs soufistes qui ont pour conviction que celui qui fait les causes pour atteindre un but recherché a entaché sa foi. Si bien que lorsqu'il voit quelqu'un faire les causes pour atteindre leur objectif, ils le blâment et lui disent « couvre ce défaut ». Pour eux, c'est un défaut de faire les causes. Celui qui prend sa plume pour écrire la science qu'il recherche, il l'accuse dans sa foi et disent qu'il a un problème. Il pense qu'on atteint les buts sans faire les causes et ceci est un égarement. Il existe aussi des gens dans le domaine de la quête du savoir, la recherche de la connaissance religieuse, qui divisent les questions religieuses en deux. Les questions relatives à la science en deux. Ils disent, il y a la science des questions religieuses, celle qui est en relation avec les jugements, le licite et l'illicite. Ils disent qu'il y a aussi la science en relation avec les mérites des actions. Et nous nous occupons de la science des mérites. Et quant à la science des jugements, on la laisse aux savants. Ils se sont donc mis, et ces gens-là sont présents même ici, ils se sont donc mis à délaisser la science des jugements et à rechercher d'une mauvaise façon la science des mérites, sans vérifier l'authenticité des récits prophétiques qu'ils lisent. Ils se sont mis à inventer des choses et à lire des récits qu'ils ont apparentés au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il ne les a jamais dit alayhi salatu wa sallam, car ils ont délaissé le savoir. Ils disent qu'il y a aussi la science des questions que nous laissons aux savants. À travers cela, en réalité, ils font fuir les gens de la quête du savoir. Ce savoir religieux qui est la base du savoir par excellence, au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans sa religion. » On comprend, à travers ce récit prophétique, que quand Allah tabaraka wa ta'ala veut un bien pour son serviteur, il l'instruit dans la religion d'Allah et lui fait comprendre et savoir les règles de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le savoir est une chose louable. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son cousin paternel Abdullah ibn Abbas qui était jeune, il a vu qu'il était doté d'une intelligence et doué de raison. Il a invoqué Allah en sa faveur et a dit « Oh Allah, instruis-le dans ta religion et enseigne-lui l'interprétation. » C'est alors que Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma est devenu le plus savant des compagnons radiallahu ta'ala anhum, malgré la jeunesse de son âge radiallahu. Parmi les plus savants des compagnons radiallahu anhum, malgré sa jeunesse. La science, c'est comme la subsistance. Et Allah tabaraka wa ta'ala a favorisé certaines personnes par rapport à d'autres, que ce soit dans le domaine de la subsistance ou alors du savoir. Et dans d'autres domaines, il y a parmi les gens certains qui sont riches, d'autres qui sont pauvres. Certains dans le savoir qui sont connaisseurs, qui sont savants, d'autres qui sont ignorants. Les ignorants également se divisent. Il y a ceux dont l'ignorance est simple et ceux dont l'ignorance est approfondie. Ce sont ceux qui pensent savoir. Ils sont ignorants et ils croient qu'ils savent. Et ce qui est compris du hadith, c'est que celui à qui Allah tabaraka wa ta'ala ne veut pas de bien, il le prive de la connaissance. Il ne l'instruit pas dans sa religion. Il ne lui donne pas le savoir. Subhanahu wa ta'ala. Et certains parmi les gens pensent qu'il y a un âge qui, lorsqu'il est atteint, il est trop tard. On ne recherche plus la science car c'est trop tard. Et cette conception est erronée et fausse. Il n'y a pas d'âge. Il est d'ailleurs relaté de certains des grands savants de l'islam, comme Ibn Hazm al-Zahiri rahimahullah, qu'il a commencé la quête du savoir alors qu'il avait 40 ans. Et il est devenu ce qu'il est devenu, une sommité parmi les savants de la science ou de l'islam. De même, Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, qui a entrepris la quête du savoir à un âge avancé. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il faut fournir les efforts et faire les causes. Et ceci fait partie de la foi et de la confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala.
ثم إشارة في قوله مع بذل جهد في رضا الرحمن التفريق في باب الأسباب بين ما هو مشروع وبين ما هو ممنوع لأن الغاية لا تبرر الوسيلة عندنا في الإسلام يقول الإنسان وهذا ربما نجده في طالب الرزق يقول أنا
أسعى لقوت ولدي وقد يكون عمله محرم فإذا بين له أو نصح يقول من أين سأطعم هؤلاء الصغار؟ وكأن الله جل وعلا جعل رزقنا فيما حرم علينا. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لم يجعل الله رزقنا فيما حرم علينا أبدا. الغاية طيبة، الوسيلة ينبغي أن تكون طيبة. الغاية طيبة، الرزق الطيب، الوسيلة كذلك تكون رزقا طيبا، تكون وسيلة طيبة. ذكرنا لكم امبارح في مثل أو في صورة من صور الانحراف عند بعض شبابنا في تشبههم بالكفار في زيهم ومظهرهم، تشبههم بهم في تحليق شعرهم، تحليق شعرهم القزع أي لا شادي ولا شادي، أو في حلق لحاهم. ومن بعد يجي واحد حلاق يقول يا شيخ أنا في المحل يجيني الشاب يقول لي قزعني، ويجيني الكهل ويقول لي حلقني، ماذا أفعل؟ الواجب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم بعد ربما يقول أنا أمي تمنعني أن أوقف عملي، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله عز وجل لم يجعل رزقنا فيما حرم علينا. وحقيقة التوكل في هذا الباب، حقيقة التوكل في هذا الباب وهذا الامتحان العصيب، قول الله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني يكفيه الخلق جميعا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، عوضه الله خيرا منه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه منزلة التوكل، وهي من منازل السير العظيمة إلى الله تبارك وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتوكل عليه حق التوكل، إشارة إلى التوكل الكاذب المغشوش يدعيه أصحابه، إلا أن حالهم يكذبه. التوكل الصادق الحقيقي الذي قال عليه نبينا عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، والله يرزقكم كما يرزق الطير. أنا أعطي مثال لإخوان، وهذا من باب الثقافة العامة، والآن عندكم النات وعندكم جوجل وبحث بسيط تجدون. شوفوا أثرياء العالم، أثرياء العالم جميعا اللي في هذا العصر والعصور التي قبلنا، هل لما ولدوا أثرياء، أم أنهم كدوا واجتهدوا ووصلوا إلى ماذا؟ وصلوا إلى هذا المال وهذا الثراء الذي هو في حقيقته لا يساوي عند الله شيئا، لا يساوي عند الله شيئا. وصلوه بأسباب اتخذوها وجهد واجتهاد بشيء صغير كبر وعظم. وهكذا اقرأوا شوية، ثقفوا في هذا الباب، تجدون العجب العجاب. فمن يتوكل على الله فهو حسبه. الواجب عليك يا عبد الله، يا سائر إليه، أن تتوكل عليه حق توكله، وأن تتخذ الأسباب المشروعة الجائزة التي أذن الله لك باستعمالها، وأن تبتعد عن الأسباب المحرمة كلها. وفي هذا إشارة إلى ضرورة التعلم في هذا الباب. التعلم والعلم يميز لك بين الحلال والحرام، بين الطيب والخبيث. أنت مأمور بالطيب، أنت مأمور بالطيب لا بالخبيث. تتعلم تتفقه. ثم قال بعد ذلك مرتبة أخرى أو منزلة أخرى: عبدوا الإله على اعتقاد حضوره، فتبوأوا في منزل الإحسان. وهذه منزلة الإحسان العظيمة التي جاء بيانها بنصوص الكتاب والسنة، وبخاصة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح المشهور الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، والذي أظن تحفظونه جميعا، حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه، حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي بين فيه نبينا مراتب الدين: الإسلام والإيمان ثم الإحسان، وهي أعلى المراتب. الإحسان أعلى المراتب. درجة الإحسان فيها مرتبتين، فيها مرتبة المراقبة ومرتبة المشاهدة. مرتبة المراقبة ومرتبة المشاهدة. لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه مرتبة المشاهدة، ثم قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه مرتبة المراقبة.
الإمام السعدي رحمه الله تعالى nous parle maintenant
لا لا انا تكلمت على التوكل شو
toujours dans le fait de faire les causes pour atteindre son objectif.
Les bonnes causes et les mauvaises causes.
Toujours dans le fait de faire les causes pour atteindre son objectif. Comme nous le dit l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala, que ces gens-là, ils ont fait confiance, ils ont fait accompagner la confiance en Allah à l'ensemble de leurs affaires, tout en s'efforçant d'œuvrer dans la satisfaction du miséricordieux. Dans la satisfaction du tout miséricordieux. Ici, c'est une allusion à la différence qu'il y a entre les causes légiférées ou permises, licites, et celles qui sont interdites. Car nous, dans l'islam, nous avons pour conviction que la phrase suivante est fausse: la fin justifie les moyens. Ceci est faux. Les causes que l'on doit faire sont celles qui ont été rendues licites par Allah, subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui travaillent dans un domaine, par exemple, illicite. Ils acquièrent leur subsistance en désobéissant à Allah tabaraka wa ta'ala. Quand l'un d'entre eux est conseillé et orienté vers l'obéissance d'Allah et vers le fait de délaisser ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala, il se met à répondre « Comment vais-je nourrir mes enfants ?» C'est comme si que Allah tabaraka wa ta'ala avait restreint la subsistance dans le péché, dans ce qui est interdit. Et cette conception est fausse et erronée. Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas mis notre subsistance dans ce qu'il nous a interdit. Subhanahu wa ta'ala. Il va citer un exemple. Cheikh Lazhar, hafidhahullah, va citer un exemple. Il dit, prenons l'exemple de certains jeunes dont nous avons parlé la veille, qui par exemple font ces coupes ces fameuses coupes de cheveux appelées dégradées, ou encore ceux qui rasent leur barbe. Ils se rendent chez le coiffeur et lui demandent « Rase-moi la barbe » ou « Rase-moi une partie de la tête, fais-moi ce fameux dégradé ». Le coiffeur est éprouvé, il se trouve devant un péché et il dit « Comment vais-je travailler si je ne le fais pas ?» Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nulle obéissance à la créature en désobéissant au Créateur ». Voici la réalité de la confiance en Allah dans ce domaine. Subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala a dit dans le sens rapproché du verset, et quiconque fait confiance en Allah véritablement, Allah lui accordera une issue favorable et des dons sur lesquels il ne comptait pas. Dans l'autre verset, Allah azza wa jalla dit dans le sens rapproché, et quiconque fait confiance en Allah, Allah le suffira. Allah tabaraka wa ta'ala le suffira, le protégera de tout mal, subhanahu wa ta'ala. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le récit connu, quiconque abandonne quelque chose pour Allah, Allah lui remplacera par meilleur. Voici ce degré de la confiance en Allah auquel nous a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith où il dit, si vous placiez véritablement votre confiance en Allah, il vous aurait octroyé la subsistance comme il l'a octroyé à l'oiseau qui sort le matin le ventre vide et rentre le soir le ventre plein. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la véritable confiance en Allah, il fait allusion qu'il existe quelque chose qui est le faux tawakkul, la fausse confiance. Al-tawakkul al-kadhib, la confiance mensongère. Allah tabaraka wa ta'ala donne la subsistance à ses créatures. Le cheikh nous donne un exemple, celui des gens aisés dans ce bas monde, les gens riches. Est-ce que ces gens sont nés riches? Est-ce qu'ils sont sortis du ventre de leur mère avec la richesse qu'ils possèdent? La réponse est non. Ils sont sortis et ne possédaient rien, ils n'avaient rien. Mais c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui leur a donné cette subsistance. Ils ont fourni des efforts, ils se sont fatigués et ils ont obtenu la subsistance qu'Allah leur a donnée. Il est obligatoire aux musulmans de placer sa confiance en Allah véridiquement et de faire les causes licites autorisées par Allah et de délaisser les causes interdites par Allah tabaraka wa ta'ala. À partir d'ici, cela implique l'obligation de s'instruire dans ce domaine et de savoir ce qui est légiféré, ce qui est permis par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cette science qui va nous permettre de distinguer le bon du mauvais, le bon qu'Allah nous a ordonné de rechercher et le mauvais qu'il nous a interdit de commettre. Ensuite, l'imam Sa'di rahimahullahu ta'ala passe à un autre degré en disant, ils ont adoré la divinité en ayant la conviction qu'ils sont proches. Ainsi, ils ont accédé à la demeure de l'excellence, c'est-à-dire dans l'adoration d'Allah. C'est donc un autre degré qui est celui de l'excellence qui nous a été défini par le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, dans le récit connu relaté par Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mis en évidence les trois degrés de la religion qui sont l'islam, la foi, et l'excellence. Ce sont les trois degrés de la religion. L'excellence étant le plus haut degré de la religion a lui-même deux degrés, qui sont les suivants. Le degré du sentiment qu'Allah nous observe. Et le deuxième, qui est le plus élevé, de faire comme si que l'on voyait Allah, subhanahu wa ta'ala, dans nos adorations. Comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wa salam, l'excellence, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله نصح الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان صاحب الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني.
ينتقل الآن الناظم عليه رحمة الله بعد أن ذكر هذه المنازل المتعلقة بمنازل السائرين إلى الله عز وجل والدار الآخرة، وآخرهم هي هذه المنزلة الرفيعة، منزلة الإحسان التي تضمنت المراقبة والمشاهدة، المشاهدة لآثار صفات الله تبارك وتعالى، وهذه المشاهدة تكون بالبصائر لا بالأبصار. انتقل بعد ذلك إلى ذكر ما يجب على المسلم إزاء من حوله، إزاء إخوانه، وهذه تعتبر كذلك من منازل السائرين إلى الله، لأن السائر إلى الله تبارك وتعالى مطالب بالإصلاح في علاقتين، في علاقته بربه تبارك وتعالى أولا، وفي علاقته بالخلق بعد ذلك ثانية، وهاتين العلاقتين تجمعان بتقوى الله تبارك وتعالى وحسن الخلق. ولهذا لما كان نبينا يسأل عن أحب الأعمال أو الأعمال التي تدخل أصحابها إلى الجنة، كان جوابه تقوى الله وحسن الخلق، وهو إصلاح ما بينك وبين ربك تبارك وتعالى، ثم إصلاح ما بينك وبين من حولك من الناس جميعا، وأولهم إخوانك الذين يجب أن تعاملهم بالنصيحة، والنصيحة باب عظيم من أبواب هذا الدين، حتى قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف مشهور من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه: الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا الدين قوامه على النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين تناصحهم بما أوجب الله عز وجل عليك، وبما بينه لك نبيك عليه الصلاة والسلام. أئمة المسلمين هم حكامهم وولاة أمورهم، وهم علماؤهم، علماؤهم أن تعرف لهم قدرهم ومنزلتهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. يجلون ويحترمون ويحسن بهم الظن، هذا الواجب، لا أن تتبع، لا أن تتتبع عوراتهم وتذاع سقطاتهم. وكذلك إخوانك أن تمشي معهم بالنصيحة، والنصيحة علاج يقوم الاعوجاج الذي يكون في الفرد أو يكون في الجماعة. هذه الجماعة لحمة واحدة، الجماعة لحمة واحدة، وأمرنا بها وأمرنا بالمحافظة عليها أمرا أكيدا جازما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، والفرقة عذاب. ولهذا قال رحمه الله: نصح الخليقة في رضا محبوبه، لأن النصيحة يبتغى بها وجه الله، نريد بها أن نرضي ربنا تبارك وتعالى، لأنه هو الذي تعبدنا بها وهو الذي أمرنا بها، ونبيه هو الذي حثنا عليها. ووالله إن الناس إذا أهملوا هذا الأصل وتركوا النصيحة واستبدلوها بالقطيعة، فإنهم يبتلون في دنياهم بالفتن، يبتلون في دنياهم بالفتن التي لا يعلم شرها إلا الله تبارك وتعالى. فكونوا على نهج سلفكم، ونهج السلف هو هذا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية مقررا هذا، أنه من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة في وصفهم، قال: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. أعرف الناس بالحق لأنهم أهل علم، علم كتاب وعلم سنة، وهم أرحم الناس بالخلق، يمشون فيهم بالنصيحة، يحبون الخير لغيرهم ولا يتتبعون العورات، ولا يتتبعون العورات أو يذيع السقطات أبدا. ليس فينا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرق بين النصيحة وما أمرنا فيها وبين التحذير من المخالفين المبدلين المغيرين. هؤلاء الكلام فيهم من الواجبات الشرعية ومن الجهاد الذي حث عليه سلف هذه الأمة، كما قال الإمام أحمد رحمة الله قولته الشهيرة: إن لم أتكلم أنا وأنت فمن يذب عن سنة رسول الله؟ والذب عن السنة واجب، واجب. وهؤلاء هم الذين قصدهم نبينا عليه الصلاة والسلام، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه وظيفة العلماء الربانيين ومن سار على نهجهم، وهذا في حق مخالفيهم لا في حق من معهم على منهجهم وعلى دربهم. فهؤلاء الواجب في حقهم التراحم والتعاطف والتعاون على الخير وعلى البر والتقوى. لعلنا نزيد بعد الآذان ربع ساعة، نكمل بقية المنظومة بإيجاز واختصار، ونسأل الله عز وجل أن ينفعني وإخواني جميعا بما سمعنا، وأن يوفقنا للسير على هذه المنازل علما وعملا وتحقيقا، لأن هذا القصد من مثل هذا العلم، لا أن نتعلم ليكون حجة علينا، بل نتعلم ليكون حجة لنا بين يدي ربنا جل في علاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
الإمام السعدي رحمه الله تعالى va maintenant, après avoir parlé de ces deux degrés de l'excellence qui sont le sentiment qu'Allah nous observe et celui qui est le plus élevé, le fait d'adorer Allah comme si on le voyait, il a fait une parenthèse en disant d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala selon ce qu'impliquent ses noms et attributs, subhanahu wa ta'ala, d'adorer Allah azza wa jal comme si qu'on le voyait avec la clairvoyance, la connaissance de ses noms et attributs. L'imam al-Sa'di rahimahullah va maintenant passer à un autre degré que doivent franchir ces gens, qui est le degré de la réforme. Il nous dit, au moyen du savoir religieux, de l'orientation qu'il donne aux gens et de la bienfaisance envers eux, ils leur ont commandé de rechercher l'agrément de celui qu'ils aiment. Ici, l'imam Sa'di rahimahullah nous parle de la réforme. Le serviteur a reçu l'ordre de réformer deux relations. La première, la relation qu'il entretient avec Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième, la relation qu'il entretient avec les gens. C'est la raison pour laquelle ces deux choses sont réunies dans l'ordre de la piété, at-taqwa, et du bon comportement, par lequel nous a orienté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il orientait ses compagnons et leur disait de faire preuve de piété envers Allah, et ceci est l'entretien du lien entre le serviteur et son créateur, et du bon comportement, et ceci est l'entretien du lien entre le serviteur et les gens. Il nous parle ici, rahimahullah, de l'orientation qu'il donne aux gens, c'est-à-dire du conseil. Le conseil a une place immense et très élevée dans la religion d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le récit, la religion c'est le conseil, la religion c'est le conseil, la religion c'est le conseil. Après avoir interrogé pour qui, il répondit sallallahu alayhi wa sallam, pour Allah, pour son prophète, pour son livre, pour les imams, pour les gouverneurs et pour la masse des gens. Les gouverneurs ou les imams, ce sont les gouverneurs des musulmans, mais aussi les savants de l'islam. Ils doivent être conseillés à la manière légiférée par Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, « Ne fais pas partie de nous, et à la fin du hadith, celui qui ne donne pas le droit au savant, celui qui ne s'acquitte pas de son devoir envers le savant. » Et il fait partie de cela d'avoir une bonne opinion des savants, de penser du bien d'eux, de ne pas douter de leur intégrité, de ne pas rechercher leurs erreurs. Il faut agir de même entre les frères, prodiguer le conseil, car par Allah, le conseil est le remède. Le conseil est le remède. Et nous avons reçu l'ordre dans la religion de préserver les liens qui nous unissent et de former un groupe uni. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, l'union est la miséricorde, la désunion est le châtiment. Et l'imam al-Sa'di rahimahullah, quand il nous parle de ces gens-là, il nous dit qu'ils ont orienté les gens dans l'agrément d'Allah, en recherchant l'agrément d'Allah, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné cet ordre d'entretenir ces relations, de prodiguer le conseil. Le cheikh dit, et par Allah, si le conseil est délaissé, le délaissement du conseil est la base de tous les troubles qui nous touchent dans ce bas monde. Ces troubles nous touchent si nous délaissons le conseil sincère. Et ces troubles, seul Allah tabaraka wa ta'ala en connaît les conséquences. C'est la raison pour laquelle Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a affirmé dans un de ses écrits qu'il fait partie des fondements des gens de la sunna, ou plutôt il a décrit les gens de la sunna comme étant les plus connaisseurs en matière de religion. Ils sont ceux qui connaissent plus Allah azza wa jal que les autres, et ils sont les plus conseillés envers les créatures. Ils sont les plus connaisseurs envers le Créateur et les plus conseillés envers les créatures. Il faut donc prodiguer le conseil. Il fait partie du conseil de mettre en garde contre les opposants, contre ceux qui dévient de la vérité, qui s'opposent à eux et qui constituent un danger pour ceux qui pourraient les écouter. Ceci fait partie de la lutte auquel nous a encouragé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ahmed rahimahullah a dit: si je me tais, et toi aussi, et lui aussi, qui est-ce qui défendra alors la sunna? La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est la fonction des savants, le travail des connaisseurs. Ils répondent et réfutent, voire mettent en garde contre les opposants à la vérité. Contre les opposants à la vérité. Et on ne parle pas de ceux qui sont avec eux dans la méthodologie, mais plutôt de ceux qui s'opposent à eux. Ceux qui sont avec eux dans la méthodologie, une attitude différente doit être adoptée avec eux, qui est la douceur, le conseil. Puis le cheikh s'arrête ici et demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous octroyer la science utile et les œuvres. Et rappelle que ce qui est voulu de ces apprentissages, c'est de les mettre en pratique. De mettre en pratique la science que l'on acquiert dans le but d'avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh va terminer brièvement les quelques vers qui nous restent, inshallah ta'ala, après l'appel à la prière, inshallah.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول
قال رحمه الله صاحب الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني ألا بالله دعوت الخلائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن. حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان.
يواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى الناظم بعد أن ذكر منزلة النصيحة الواجبة للمسلم لأخيه المسلم، النصيحة بمعناها الشرعي الشامل الذي ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعد ذلك: صاحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقان.
في هذا إشارة إلى تعلق قلوب هؤلاء، وهؤلاء هم السائرون إلى الله تبارك وتعالى، أن قلوبهم متعلقة بالله عز وجل. ومن كان قلبه متعلق بالله لا شك ولا ريب أنه يكثر ذكره، وأنه يسعى لإرضائه بكل ما أوتي من قوة. همه وجهده وحركاته كلها لتحقيق هذا الأمر. صاحب الخلائق بجسومهم فقط، أما قلوبهم فهي متعلقة بالله، بمعنى أن هذه القلوب ليست متعلقة بالمخلوقين. وهكذا ينبغي أن يكون السائرون إلى رب العالمين، أن تكون قلوبهم متعلقة بالله وحده لا شريك له، لا بمخلوق من المخلوقات كيفما كان، سواء في تعظيمه أو سواء في محبته. ولهذا رأينا في منزلة المحبة أن المحبة المطلوبة هي أن يكون الله ورسوله أحب إليه ممن سواه، أحب إليه من الوالد والولد، أحب إليه من الزوجة والصاحبة، أحب إليه من الدنيا وما فيها. ثم قال، وفي هذا البيت وقع تصحيف أفاده الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله وسدده ووفقه، وهو يعني تصويب ينبغي أن يراعى، وكان موفقا فيه حفظه الله، في قوله بالله دعوات المشاهد كلها. قال هذا لا يستقيم لا معنى ولا وزنا، وهذا صحيح. لو أمعنت النظر لوجدت أن هذا الكلام غير واضح. بالله دعوات المشاهد كلها ما معنى؟ والتصحيف إنما وقع أن هذه بالله زائدة، وزيادتها بسبب تصحيف ناسخ، لأن هذه المنظومة علق عليها صاحبها الشيخ السعدي عليه رحمة الله تعليقا لطيفا، يعني ذكر فيه المنظومة وفيه الشرح. الناسخ لأن آخر كلمة من تعليقه على البيت السابق ينتهي بهذه الكلمة بالله، فألحق بالله في البيت اللاحق وهي زائدة ليست منه. ثم دعوات هذه كذلك لا معنى لها بهذا اللفظ، وهي تصحيف كذلك، تغيرت أو صحف الدال الذي أصله راء، فيكون تصحيح هذا البيت يعني صدره فقط، أما العجز فهو صحيح. أن يقال راعوا الحقائق والمشاهد كلها، راعوا الحقائق والمشاهد كلها. ويؤيد هذا أن الناظم عليه رحمة الله في تعليقه ذكر بعد هذا الحديث عن منزلة الرعاية، عن منزلة الرعاية، يعني أن يراعي العبد ربه تبارك وتعالى في حركاته وفي سكناته. هذه الرعاية التي تكون خوفا على الإيمان من النقصان، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، وينقص بمعصية الرحمن جل وعلا. ولهذا الذنوب تؤثر على القلوب، الذنوب بريد الكفر ما زال الرجل يذنب ثم يذنب ثم يذنب حتى يطبع على قلبه كما جاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا أذنب العبد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، وإذا أذنب ذنبا نكتت فيه نكتة سوداء أخرى حتى يصبح هذا القلب قلبا أسودا مربادا كالكوزي مجخيا كهذا الإناء المقلوب. الإناء إذا كان مقلوب مهما سكبت فيه من شيء فإنه لا تصله قطرة واحدة من أغلى الأشياء وأنفس الأشياء وألذ الأشياء. أسكب عليه عسل، حليب مصفى، لبن، مأط، لا تصله قطرة واحدة. لما؟ لأنه منكوس، وهذا النكس سببه هذه المعاصي والذنوب أجار الله تبارك وتعالى منها. ومن آثار هذا القلب يقول عليه الصلاة والسلام يصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وهذا الذي يصدق فيه قول ربنا جل في علاه ومن أظلم ممن اتخذ إلهه هواه. الهوى يعبد، نعم يعبد، إذا تركت عبادة ربك جل وعلا استجابة لهواك فهذه عبادة للهوى وأصبح هذا الهوى بالنسبة لك وثن يعبد، بالنسبة لك وثن يعبد عياذا بالله. ثم قال في وصفهم عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن. وهذه صفة المتعلق قلوبهم بالله تبارك وتعالى، الذين تعلقت قلوبهم بالله عزفت هذه القلوب عن الشواغل كلها. إذا جاء أمر الله تبارك وتعالى فزعوا إليه. نبينا عليه الصلاة والسلام لما هذا حاله تقول عائشة كان إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة، أول شيء فزع إلى الصلاة. الناس الآن انقلبت أحوالهم، المسلم إذا تصيبه مصيبة أول شيء يضحي به ويتركه ويغفل عنه هي صلاته. يطيحهم بام اون سامبل كروفيزا يترك الصلاة، يا عبد الله روح صلي شوفني مكريفي وروح نصلي. هذه حقيقة يا إخوان، يترك الصلاة اون سامبل كروفيزا سي جوست صلى العفو العافية. إذا ما لا حدث ولا حرج، زوروا المسلمين في المستشفيات، ذكروهم بالله، اسألوهم عن الصلاة. غير يقول لك ما صليت 10 أيام، ما صليت 15 يوم. واحد بعضهم يرى أنه حرام يصلي في المسجد، صلى العفو العافية وهو مقبل على الله، وقد يكون مرضه هو آخر عهده بالدنيا. ولهذا الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه العظيم أحكام الجنائز بدأ بباب عيادة المرضى والحديث عن أحكام المرضى. الشاهد أن الذي فرغ قلبه من الشواغل كلها هذا ومن سوى الرحمن تبارك وتعالى هذا قلبه متعلق بالله تبارك وتعالى. ذكر بعد ذلك في بيان وصف هذا القلب بقوله حركاتهم وهمومهم وعزومهم، وهذا فيه إشارة إلى المراتب التي تكون في القلوب. أول مرتبة الحركة، والحركة الشيء الذي يجده المرء في قلبه، يبدأ شيء في قلبه. هذا الأمر إما أنه بعد الحركة يغفل عنه ويتغافل عنه فيذهب، وإما أن يفكر فيه ويحمل همه، ينتقل من الحركة إلى الهم، يصبح هما لديه كيف يفعل هذا الأمر؟ كيف إنسان في درس من الدروس مثلا، في درس البارح كان جالس معنا وصاحب أموال وغني وثري وعنده الزاد والراحلة، عنده أودي جديدة هكذا عمل هشمي، وعنده زاد إلى بلان دارجون، وسمع حديث عمر رضي الله عنه قال ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، جاءت حركة في قلبه، هذه الحركة قد يكون فيها شيء من الأسى من الحسرة، أنا ما زلت حجيت، يعني شوية هذا بصيص الإيمان قد يبقى فيه، خاصة إذا وافق رفقة طيبة صالحة يزيدوا ذكروه، شفتوا ايش قال فلان و و و و و و و حتى يصبح هذا الأمر هم، خلاص هم في نفسه، بدأ يفكر كيف يحج، بدأ يفكر كيف يحج وجعله هما، هذا الهم إما كذلك أن يبقى هكذا ثم يغفل عنه أو يتغافل ثم ينزع ويطوى راح مع الأسف، وإما أن يبقى أثره وتأثيره في قلبه حتى يصبح عزيمة، يصل إلى درجة العزم وهي أعلى الدرجة، وإذا وصل إلى هذا كان الفعل بعد ذلك وتحقق الأمر بإذن الله بعد ذلك، خلاص الأسباب موجودة وعزم، كان بعد ذلك في العام القادم ممن يشهدون المشاهد من أهل عرفة بإذن الله، صلى الله عز وجل أن يتحقق هذا حتى نكون سببا في حجة مسلم، صلى الله أن يوفق الجميع لطاعته لله لا للخلق والشيطان، هذه الأمور لله، الإخلاص في البداية وفي النهاية لله وحده لا شريك له، وإذا لم تكن لله كانت لغيره، وأول هذا الغير هو الشيطان الذي يصد الناس عن سبيل الله عز وجل، ثم يختم هذه الأبيات المباركات الطيبات بقوله عليه رحمة الله، واعتذر لإخواني على الإيجاز ولكن إن شاء الله يكون فيه تحقيق المطلوب، نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان، نعم الرفيق لطالب السبل، بدأ المنظومة بذكر السبل في أول بيت وختم المنظومة بذكر السبل في آخر بيت، والسبل في أول بيت سبل الشر التي سعد من تجنبها، والسبل في آخر البيت سبل الخيرات، سبل الخيرات، من وفقه الله جل وعلا لرفيق سائر إلى الله رفيقا له سيعينه في سيره، لأننا في السير إذا كنا رفقة وجماعة كان الخير في سيرنا، ولهذا قال نبينا الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، والثلاثة ركب، والخير والبركة في الاجتماع، والخير والبركة في الاجتماع، حتى أن النبي في بعض أسفاره في غزوة من غزواته لما توقف بالصحابة ليخيموا يستريحوا تفرق الصحابة هنا وهناك، هذا يصلي هذا يأكل هذا، فقال ما لي أراكم عزين إن تفرقكم هذا من الشيطان. حتى في مثل هذا الحال أن يبقوا مجتمعين، فكذلك في سيرنا أن نكون مجتمعين متعاونين، وهذا التعاون من أعظم الخيرات ومن أعظم الإحسان، والإحسان هو أعلى مراتب هذا. نسأله جل وعلا أن يجعلنا من السائرين إليه الصادقين في سيرهم، وأن يرزقنا الوصول، وأن يجعلنا من أهل جنة النعيم، وأن يجمعنا بإخواننا دائما وأبدا على ذكره وعلى طاعته، إنه جواد كريم. أختم كلمتي هذه بنصيحة أوجهها لإخواني في هذه البلدة، أن يجتمعوا على الخير وأن يتواصوا بالبر والتقوى كما أمرهم بذلك ربهم جل وعلا، وأن يحققوا هذه المعاني التي ترضي عنهم ربهم عز وجل، لأن العبرة ليست في أن نجتمع وليست في أن نسمع، إنما العبرة كما قال رب العزة والجلال في وصف عباده المؤمنين الصادقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأعتذر على الإجابة على الأسئلة، لعله إن شاء الله فرصة أخرى. أنا الأسئلة أخذها معي، وكل ما أينما حللت أسئلتي أخذها، قد أجيب عليها، ربما إذا تيسر، هذا اقتراح أخوكم رزق الله، أننا نحاول أن نجيب عليها في إذاعة التصفية والتربية بإذن الله جل وعلا. نخصص حصة من حصص الإذاعة لإخواننا لزيمغري أو لإخواننا من مدينة ليون، الذين صلى الله عز وجل أن يجمع قلوبهم على طاعته.
فيكم جزاكم الله خيرا. الإمام السعدي رحمه الله تعالى dit, donc je vais lire jusqu'à la fin. Ils ont accompagné les créatures par leur corps, cependant se trouvent dans une demeure supérieure. Par crainte que ne diminue la foi, ils ont porté attention à toutes ces réalités et aux visions, aux visions de l'excellence dans l'adoration d'Allah. Ils ont empêché les cœurs de s'attarder à toutes les occupations et les ont donc vidés de tout autre que le miséricordieux. Leurs gestes, leurs soucis et leurs résolutions appartiennent à Allah et non pas aux créatures ni au diable. Quel bon compagnon pour celui qui recherche les voies qui conduisent au nombre bien et à l'excellence. Président de l'association, Inch'Allah, est attendu dans la salle. Monsieur Miloudi est attendu près de la salle, près du mihrab. Donc l'imam Sa'di, rahimahullahu ta'ala, fait allusion ici à l'état des cœurs de ceux qui cheminent vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Ces cœurs ne sont attachés qu'à Allah seul. Ils n'ont qu'Allah avec eux. Subhanahu wa ta'ala. Ils ont accompagné les créatures par leur corps. Avec leur corps, ils sont avec les créatures. Cependant, leurs esprits se trouvent dans une demeure supérieure. Même si physiquement, ils sont là avec les créatures, leur cœur n'est qu'avec Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et sans le moindre doute, celui qui est dans cet état va donner de tout ce qu'il a et fournir fournir pardon, des efforts pour réaliser ce but tant attendu qui est d'arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Leurs cœurs sont rattachés à leur créateur et à aucune des créatures. Peu importe qui est cette créature. Peu importe qui est cette créature. Ils ne vénèrent qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est Allah qu'ils aiment plus que quiconque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, dans la partie du hadith, qu'il existe trois choses. Si elles se réunissent en la personne, elle aura goûté à la saveur de la foi. La première, qu'Allah et son messager lui soient plus aimés que quiconque. L'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala dit, par crainte que ne diminue la foi, ils ont porté attention à toutes ces réalités et aux visions de l'excellence dans l'adoration d'Allah. Le Cheikh l'Azhar, hafidhahullah ta'ala, a attiré notre attention sur une correction qui a été apportée par le noble Cheikh Abdul Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr, qu'Allah le préserve, dans son commentaire de ce poème. Il a fait une correction, et je vais simplement vous le résumer, car ici la traduction est en réalité la traduction de la correction. Donc la traduction est bonne. Mais ce qu'il y a en arabe a été corrigé par le Cheikh Abdul Razzaq, hafidhahullah, qui s'est appuyé aussi sur le commentaire de l'auteur de ces vers de poésie lui-même, le Cheikh Abdul Rahman al-Sa'di, rahimahullah, qui a son propre commentaire de ses propres vers de poésie, où justement il commente des choses qui sont en rapport avec la correction apportée par le Cheikh. C'est-à-dire que dans la correction donnée par le Cheikh al-Sa'di rahimahullah, il corrige justement quelque chose. Ce quelque chose, c'est la correction. C'est la vraie correction de ces vers. Le Cheikh al-Sa'di a dit, par crainte que ne diminue la foi, ils ont porté attention à toutes ces réalités et aux visions de l'excellence dans l'adoration d'Allah. En faisant allusion au fait que la foi diminue et augmente, et ceci est la croyance du musulman. Le péché fait baisser la foi. Et certains savants ont dit que les péchés conduisent à la mécréance. Les péchés ne cessent d'être commis jusqu'à ce que le cœur devienne noir. À l'image faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un verre ou d'un récipient qui est retourné. Le Cheikh dit, si tu prends un verre et tu le retournes, tu peux essayer d'y introduire ce que tu veux comme liquide, du miel, de l'eau ou autre. Le verre n'acceptera rien puisqu'il est retourné. De même, le cœur de celui qui désobéit Allah tabaraka wa ta'ala et qui ne cesse de lui désobéir atteint un stade d'égarement où il est à l'image de ce verre qui est retourné qui n'accepte rien. Il n'accepte rien de ce qui est bon pour lui. Et parmi les effets néfastes que causent les péchés, ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'individu atteindra un stade où il ne saura plus reconnaître ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ou même, il verra le bon mauvais et le mauvais bon. Et ceci en concordance avec la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, selon le sens rapproché. As-tu vu celui qui a fait de sa passion une divinité? C'est-à-dire, comme elle dit le Cheikh Lazhar hafidhahullah, que lorsqu'on n'obéit pas à Allah, tabaraka wa ta'ala, lorsqu'on lui désobéit, forcément, nous allons suivre nos passions. Et ceci est peut-être une sorte d'adoration. Car le fait de suivre la passion sans cesse peut amener à l'adorer en dehors d'Allah, wal'iyadhu billah. Ensuite, l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala dit, ils ont empêché les cœurs de s'attarder à toutes les occupations et les ont donc vidés de tout autre que le miséricordieux. Ces gens-là ont vidé leur cœur et ceci fait partie de leurs caractéristiques. Lorsque vient l'ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ils oublient tout et remplissent leur cœur de cet ordre d'Allah, azza wa jal. C'est pour cela que Aïcha radiallahu anha a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, quand une chose lui paraissait contraignante, quand il rencontrait le moindre souci, il se précipitait vers la prière. Alors qu'aujourd'hui, il est malheureux de constater que beaucoup parmi les musulmans, lorsque le moindre mal les touche, ils délaissent justement la prière. Allez donc voir cela dans les hôpitaux et voyez, il y a même des gens qui, pour une simple panne de voiture, font sortir la prière de leur temps ou la délaissent. Une simple panne, une crevaison, ils laissent la prière sortir de son temps et ne l'accomplit pas comme Allah lui a ordonné. Visitez les malades et voyez un peu la situation de beaucoup de gens qui sont touchés par des maladies et qui deviennent insouciants si bien qu'ils délaissent la prière. L'un d'entre eux te répondra, cela fait 10 jours que je n'ai pas prié. Alors qu'il se peut que cette maladie soit celle qui causera sa mort. Il se peut que sa mort est proche. Et c'est pour cela que l'imam al-Albani, rahimahullah, dans son livre relatif aux règles de jurisprudence dans les funéraires, les enterrements et autres, il cite en premier la visite des malades. La visite des malades. Le cheikh dit visiter les malades dans les hôpitaux. Rappelez-leur les ordres d'Allah. Rappelez-leur la prière et les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'imam Sa'di, rahimahullah, dit « Leurs gestes, leurs soucis et leurs résolutions appartiennent à Allah et non pas aux créatures ni au diable. » Et ici, il fait allusion aux différentes étapes que rencontre le cœur. Premièrement, « Al-Haraka », le geste. Le cœur, avant que l'homme, l'individu, n'entreprenne quelque chose, tout se passe dans son cœur. Il y a premièrement le geste. C'est-à-dire que quand il est appelé à quelque chose ou il entend quelque chose, vient dans son cœur ce qui est appelé al-haraka. Si il est inattentif ou il se montre insouciant, il l'oubliera et ce geste disparaîtra et il ne fera rien. Par contre, si il développe en lui ce sentiment qu'il sent, qu'il ressent dans son cœur, cela deviendra pour lui un souci. S'il est insouciant, ça disparaîtra. S'il le développe, ça deviendra une résolution et il passera à l'acte. Le cheikh nous donne comme exemple quelqu'un qui est riche et qui a assisté à l'intervention du cheikh donnée la veille, dans laquelle il a cité le récit de Omar radiallahu ta'ala anhu, qui nous dit que celui qui est en sa possession les biens physiques et financiers, qui a la monture lui permettant d'arriver au lieu de pèlerinage, mais ne le fait pas, alors qu'il meurt, juif ou chrétien s'il veut. Celui qui a entendu cette parole, la première chose qui est venue dans son cœur, c'est al-haraka, c'est ce sentiment-là. Par la suite, s'il continue à y penser, ça devient un souci. S'il développe ce souci, ça devient une résolution et le voilà qui prend son argent et va accomplir le pèlerinage. L'imam Sa'di rahimahullah a conclu ses vers de poésie en disant « Quel bon compagnon pour celui qui recherche les voies qui conduisent au nombre bien et à l'excellence. » Au début, le Cheikh Sa'di a cité les voies et il en a cité d'autres à la fin. Les voies citées au début sont celles de la perdition et les voies citées à la fin sont celles qui conduisent au bien et à l'agrément d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le cheikh appuie sur l'importance de l'union et la gravité de la désunion, au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ses compagnons qui ont fait halte dans un endroit, dans un voyage un soir, se séparer et chacun aller dormir dans un endroit. Le prophète alayhi salatu wa sallam leur a donc dit: pourquoi vous vous êtes séparés? Cette séparation dont vous êtes les auteurs ne vient que du diable. Le cheikh dit l'importance, d'où l'importance de s'unir dans la religion d'Allah. Et il termine par un conseil qu'il prodigue aux habitants de ce pays qui est celui de mettre en pratique ce qui a été entendu. Et Allah Azza wa Jalla a fait les éloges de ceux qui entendent la belle parole et qui mettent en pratique le meilleur de ce qu'elle contient. Il enjoint les musulmans de s'unir dans la vérité et de suivre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'excuse de ne pas avoir pu développer plus les derniers vers et leurs commentaires, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala le récompense et accepte de lui cette œuvre. Quant aux questions et réponses, il s'en excuse. Et sachez que le Cheikh a un site, Tasfiya wa Tarbiya, je vous le donnerai après, Inch'Allah, vous l'écrirez, dans lequel sont diffusées ses interventions. Et peut-être qu'il choisira un moment où il prendra avec lui ses questions et consacrera ce moment pour répondre justement aux questions que vous avez écrites. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.
وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت